Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. À chaque épisode, je recevrai un parent, un jeune ou un couple qui viendra se raconter par rapport à son histoire, son éducation et comment il se projette dans sa parentalité. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Fatih. Comment tu vas, Fatih ?
Hello, ça va très bien, merci. Et toi, Aminata ?
Très bien, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Alors moi, c'est Fatih. Je suis artiste slam, un petit peu comédienne aussi parce que j'ai fait des courts-métrages. Et je suis aussi parent, donc je suis maman solo de deux garçons.
Quel âge ils ont ?
11 ans, il va bientôt avoir 12 ans dans un mois et le deuxième à 9 ans.
Ok, très bien. Est-ce que on peut faire connaissance avec Fatih ? Qui était Fatih petite ? Dans quel contexte tu as grandi ? Est-ce que tu as grandi avec tes parents ? Où est-ce que tu es née ? Raconte-nous un petit peu de quelle famille tu viens.
Alors, moi, je suis née en Mauritanie dans les années 80. Donc, ma mère est malienne, mon père est sénégalais et moi, je suis née en Mauritanie. Et quand on était petit, j'ai un petit peu grandi en Mauritanie jusqu'à l'âge de à peu près, je crois, 6 ans ou 7 ans. Et ensuite, on est parti au Mali pendant un an ou deux ans. Et on est arrivé en France, j'avais 8 ans.
Tu as des frères et sœurs, Fatih ?
Oui, j'ai des frères et sœurs.
Plus grand, plus âgé, tu nous dis quelle est ta place dans la fratrie ? Tu es l'aîné ?
Je suis l'aîné.
Donc, les autres arriveront au monde après ton arrivée en France ou pas forcément ?
Pas forcément. Alors, quand on est arrivé en France, on était déjà trois.
Ok.
J'avais mes deux frères avec moi, mes deux petits frères. Et puis après, les autres sont arrivés par la suite.
Par la suite.
Sur le territoire français, ouais.
Ok. Donc, quand tu arrives sur le territoire, avant même ton arrivée sur le territoire, tu as vécu les six premières années en Mauritanie. Enfin, une partie en Mauritanie et ensuite, vous avez voyagé. Est-ce que tu te souviens un petit peu de cette enfance ? Quels sont les souvenirs que tu as ? Est-ce que tu étais proche de maman, de papa, des grands-parents ? Comment vous viviez ? Est-ce que c'est les maisons familiales comme certains l'imaginent ou pas du tout ? Raconte-nous un peu.
Alors, je me souviens que quand j'étais petite, je vivais avec ma grand-mère. Donc, c'est un petit peu elle qui m'a élevée, à tel point que je croyais que ma mère, c'était ma tante. Et puis, j'avais une super entente avec ma grand-mère. Je l'appelais maman, ce qui veut dire nénée en peul, parce que je suis peul. Et c'est après, par la suite, que j'ai compris que ma grand-mère, c'était ma grand-mère et ma mère, c'était ma mère. Et j'étais pas très proche de ma mère au départ, mais plus proche de ma grand-mère. Après, la vie là-bas, dans mes souvenirs, c'était on allait chercher l'eau au puits, on courait pieds nus dans le sable du désert, etc. Je me souviens aussi qu'on vivait tous, pratiquement tous dans la même maison, une maison familiale. Et puis ensuite, on est parti à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, pour rejoindre mon père, si mes souvenirs sont bons. Et puis ensuite, on a été au Mali pendant un an ou deux, le temps d'attendre tout ce qui est administratif pour arriver sur le territoire français. Mon père était déjà ici en France. Depuis déjà quelques années. Et puis voilà, nous, on était avec ma mère au Mali, le temps de régulariser la situation pour qu'on puisse arriver sur le territoire français.
D'accord. Nous, Fatih, on se rencontre lors d'événements engagés sur la lutte contre l'excision, notamment les mariages forcés, tout ce qui est violence féminine, sexuelle féminine. Est-ce que tu... Est-ce que tu es engagée parce que tu as toi-même vécu, ou est-ce que tu es engagée parce que c'est une cause qui résonne tellement fort en toi que tu as envie de te sentir concernée, utile?
Oui, les deux, je dirais. Je suis engagée parce que c'est mon histoire. Quand j'étais petite, j'ai subi ce qu'on appelle l'excision. C'est une partie de mon histoire. J'ai beaucoup eu du mal à l'accepter. Et aujourd'hui, étant artiste, je m'engage et je lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, notamment. Mais c'est vrai que l'excision, c'est cette violence-là que j'ai connue. Donc, c'est vrai que je suis un peu plus engagée par rapport à contre cette violence.
On a dit excision comme si tout le monde savait de quoi il en retournait. Tu nous expliques un peu?
C'est vrai. Alors, une excision, c'est quand on coupe les parties génitales de la femme, notamment son clitoris. Il y a plusieurs formes d'excision. Alors après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas experte, mais d'après ce que j'ai compris, parce que forcément, je me suis un petit peu renseignée, c'est une ablation des lèvres pour certaines. Pour d'autres, c'est le clitoris qui est sectionné. Et puis, pour d'autres formes, on coud les lèvres entre elles. Moi, je pense que c'est la forme la plus un peu la plus grave, même si tout est grave. Et puis voilà. Alors après, le pourquoi, du comment, etc. Ça, c'est encore une autre histoire.
Toi, tu te souviens où on te raconte?
Alors, moi, dans mon cas, c'est un peu particulier. Enfin, particulier, je ne sais pas, je pense que d'autres ont vécu ça aussi. C'est que je ne me souvenais pas que je m'étais fait exciser. Donc, j'ai été excisée et pendant plusieurs années, j'ai vécu sans le savoir. Et c'est un jour, lors d'une visite chez la gynéco, où elle m'annonce oui, vous avez été excisée. Alors, ce terme, je ne le connaissais pas. Du coup, moi, je paniquais un peu. Je me dis peut-être que j'ai une maladie, etc. Mais je comprenais pas parce que ma
De quoi
première
vous
visite chez
parlez?
voilà ma première visite chez le gynéco, j'étais vierge, j'étais pas, enfin, je comprenais pas vraiment. J'ai eu très 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 peur. Et quand elle a vu la peur sur mon visage, en plus j'étais un peu timide, tu sais, j'étais pas une femme affirmée comme aujourd'hui. Du coup, elle prend une feuille et elle m'explique. Elle me fait un dessin d'un vagin.
Dit normal,
Ouais,
on
dit
va dire.
normal. Elle dessine mon vagin à côté. Donc, du coup, moi, je me rends compte que,
Que c'est pas
ouais, c'est
pareil.
pas pareil. Il manque des éléments. Il manque des choses. Et du coup, là, moi, j'ai pas tout de suite compris, en fait, parce que moi, je pensais que j'avais une malformation de quelque chose et elle utilisait des termes que je ne comprenais
Comprenez pas.
pas. Et au final, bon, j'ai bien compris que c'était une pratique de chez moi et que j'ai été, étant petite, excisée. Et là, j'ai voulu en parler avec ma mère, mais vraiment, je m'attendais à beaucoup de choses. Et en fait, j'ai pas eu les réponses. Je ne sais même pas si j'ai posé les bonnes questions au final. Voilà, j'ai pas vraiment eu les réponses que je voulais et voilà, faut faire avec. Faut faire avec.
Du coup, tu t'engages quand même et tu vas chercher un petit peu.
Oui, je vais chercher un petit peu les réponses, j'essaye de comprendre, etc. Et en fait, ma gynéco me dit, bon, c'est la même qui me suivait depuis des années. Ensuite, elle m'a suivie pendant des années. Et à un moment, au cours de ma vie, elle me dit, de toute façon, si vous voulez faire des enfants, ça va pas être pour tout de suite. Alors que moi, bon, j'étais mariée, je voulais faire mon premier enfant et tout. Elle me dit, sinon, vous pourrez pas accoucher par voie basse. Donc là, je comprends que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et là, elle me dit, il faut absolument faire une reconstruction vaginale pour pouvoir accoucher par voie basse. Donc, je l'écoute, c'est ma gynéco, voilà. Je fais ma reconstruction vaginale. Et ensuite, Je porte mon enfant et je l'accouche par voie basse, normalement, voilà.
On y reviendra. Tu as
Mais
dit que
c'est
tu étais
vrai.
une artiste. Oui, vas-y.
C'est vrai, excuse-moi de te couper. Tu m'as dit, tu m'as posé la question à savoir mes souvenirs, tout ça. J'ai eu du. Je m'en souvenais plus que j'ai été excisée. Voilà, je m'en souvenais plus. J'ai vécu plusieurs années sans vraiment m'en rendre compte. Pour moi, j'étais tout à fait normale. Et puis, un jour, mon frère est décédé, mon petit frère, le deuxième des garçons. Je ne sais pas si c'est le choc émotionnel ou franchement, je n'ai pas d'explication sur ça, mais voilà, quelques temps après, je me suis souvenue de m'être fait exciser. Des souvenirs sont revenus à la surface. Et là, et en plus, j'étais juste en train de faire la vaisselle, en fait. J'étais pas en train de faire quelque chose de spécial. J'étais en train de faire la vaisselle et tout d'un coup, des souvenirs sont revenus comme ça, sont remontés à la surface. Et là, j'avais l'impression que c'était pas moi qui avais vécu ça, mais que c'était quelqu'un d'autre. Et là, j'étais en train de me poser la question, mais c'est moi qui ai vécu ça, ce sont mes souvenirs, ça m'appartient, c'est à moi. Sérieusement, j'ai vécu ça. Et voilà. Mais je sais qu'au fond de moi, je l'ai vraiment vécu, en fait. Mais ouais, c'était assez choquant. Je pense que le corps, quand il y a des traumatismes comme ça, parce que bah, une excision, enfin en tout cas tel que je l'ai vécu, ça s'est passé sans anesthésie, enfin voilà, à froid comme ça, les jambes écartées, on te coupe ton clitoris et tes lèvres, t'as du sang, t'es jeune, enfin t'es petite, c'est même pas t'es jeune, c'est que t'es petite, forcément. Ton corps va refouler ces souvenirs-là pour peut-être te protéger parce que c'est des souvenirs qui sont traumatisants, douloureux, etc. Donc, ouais, ça s'est passé comme ça.
Après ça, on va passer sur justement l'arrivée en France, comment tu as grandi. Tu nous as dit que tu étais artiste slam
Oui, c'est
et
ça.
du coup, tu as écrit, en tout cas, tu en as écrit un qui parle bien et qui met bien en lumière ce que c'est, en tout cas, ce que peut vivre et ressentir une enfant. Est-ce que tu es chaude là pour nous faire un petit.
Oui,
Un
pourquoi
petit
pas?
slam, un petit slam. Et nous faire justement comprendre à travers bah, ce que toi tu écris, tu composes, de quoi il s'agit. Et ça sera important, notamment quand on va passer justement à l'étape de la naissance de tes enfants et de tout ce qui se passe après. Alors, est-ce que tu es prête?
Oui, je suis
On
prête.
t'écoute.
Alors, ce texte, je l'ai écrit pour me souvenir déjà moi et pour toutes ces petites filles qui sont malheureusement décédées suite à des hémorragies. Enfin, voilà. Donc, je l'ai intitulé Ce fameux matin, ce texte. Il est un peu long, faut rester concentré. Ce fameux matin, j'ouvre mes petits yeux d'enfant sous un câlin. Le ciel est bleu, il est beau. Une petite fille pleine de vie, une petite fille en vie. Ce fameux matin qui changera à jamais tous mes autres matins. Ce fameux matin où l'on s'est introduit en mon sein, jambes écartées et sans aucune once de pitié. Mon clitoris fut sectionné. Le sang, mes pleurs, mes cris de douleur, et ce geste qui aurait pu me coûter la vie, moi qui suis si jeune et fragile, vous qui êtes tant asservie, moi qui suis tellement docile. Ce fameux matin, ma première blessure gravée, incrustée, dans mon intimité, dans mon âme, et qui a détruit mon identité de femme. La femme, tout comme un oiseau, doit être libre. Mais comment dire non à ma famille? Communication en déséquilibre, alors je suis forcée de l'épouser, c'est plus facile. Le devoir conjugal? Un rapport non consenti. dans ce nom dit. Jour après jour, je suis violée. Un viol, deux viols, une succession de viols conjugales. Je sais que c'est illégal, mais ça leur est égal. Son toucher me dégoûte. Il pèse sur moi de tout son poids, dégoulinant à grosses gouttes. On se demande bien pourquoi. Ni les ruses, ni les excuses ne suffiront à me sauver. Pas de migraine, non. Pas d'astuce, non. J'ai porté un enfant issu d'un mariage forcé. Pourtant, je l'ai aimé et éduqué. Quelle ironie du sort, n'est-ce pas? Ce fameux matin, le ciel séparé d'une couleur barbe à papa. Oui, c'est dans le plus total de mes désespoirs qu'est née ma plus grande lueur d'espoir, ce fameux matin.
Waouh! Et ben voilà, comme ça, la transition est faite. Merci pour ça. Moi, j'adore
plaisir.
T'écouter. Alors, à chaque fois que je peux, je te redemanderai de l'année. On arrive en France. Et à ce moment-là, on n'est pas encore dans la pleine conscience de ce qui s'est passé. Tu l'as très bien exprimé. Comment ça se passe, l'arrivée en France? Comment on s'intègre dans la maison qui pose le cadre, papa, maman? Comment tu grandis jusqu'à...
Alors, dans la maison, c'est plutôt papa qui est le chef de famille, donc c'est lui qui pose le cadre, à tel point que ma mère, elle parle bambara, et mon père, il parle peul. Du coup, c'était un peu la guerre des langues. Donc, mon père, il nous disait, non, vous parlez pas bambara à la maison et tout, on est des peuls, vous parlez peul. Du coup, ben, moi, je parlais bambara un petit peu quand même. Et j'ai complètement oublié le bambara, là maintenant, il ne reste que le peul.
Il ne reste que le peul,
voilà.
Papa réussi son combat.
Voilà, exactement. Donc ouais, c'était plutôt lui le chef de famille. Après, moi, mon père, je l'ai toujours vu vraiment comme un véritable bonhomme. Vraiment. C'est le papa qui est très carré, qui ne sort pas, qui n'est pas du tout dans l'alcool, la fumette ou quoi que ce soit. Il est très... tu vois, ses seules sorties se limitent au travail et ensuite au foyer pour rejoindre ses frères les week-ends, discuter et tout. Puis après, bah, c'est la maison. Donc vraiment, c'est pas de chicha, pas d'alcool, ouais. Pas d'humide. Voilà.
T'avais un papa présent du coup à la maison.
Oui, oui.
Et maman, du coup, comment elle trouve sa place dans tout ça? Donc ok, on parle pas bambara, mais sinon...
ma mère, c'est plutôt la femme à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais à l'époque, c'était plutôt la femme soumise, quoi. Soumise à son mari. Enfin, dans mes souvenirs, c'est ce que je garde en mémoire. Hein. Elle travaillait pas. Voilà, elle était à la maison. Papa, il allait travailler, il rentrait. Maman, elle nous gardait. Elle faisait à manger, le ménage. Elle sortait pas tellement. Et puis, les seules sorties qu'elle peut faire, c'est vraiment aller chez la voisine à côté et puis revenir, quoi. Mais sinon, c'était des sorties soit en famille ou soit avec mon père pour aller dans les foyers voir la famille, quoi.
Et toi, comment tu grandis dans tout ce schéma? Est-ce que quel genre de petite fille t'es scolairement, socialement parlant?
Moi, je trouve que j'étais très sage. Je ne sais pas si mes parents diront le contraire ou pas, mais je trouve que j'étais assez, assez sage. J'étais assez, je trouve que j'étais assez timide. D'ailleurs, c'est pour ça que par la suite... Enfin, timide et je manquais cruellement de confiance en moi. Alors après, j'imagine que c'est par rapport à l'éducation que j'ai eue. Du coup, c'est ce qui a fait qu'au collège, j'ai commencé à faire du théâtre. J'avais un super prof, il s'appelait Monsieur Mertz. Il était génial, il m'a fait découvrir le théâtre. Franchement, il m'a impliqué dans ce qu'il faisait. Et c'est là où j'ai joué mon premier rôle. C'était la pièce de théâtre Antigone. J'ai joué le rôle principal. Et j'ai adoré. J'ai joué dans une grande salle à Beauvais. J'ai adoré. Et à partir de là, je voulais devenir comédienne.
Ok.
Mais mon père ne l'entendait pas de cette oreille. Du coup, et j'étais plutôt talentueuse à l'époque. Hein. Le principal du collège avait convoqué mon père en disant que j'avais du talent, que j'étais vachement investie, que j'aimais ce que je faisais. Parce que du coup, j'avais écrit une pièce de théâtre à moi toute seule et j'ai fait jouer mes camarades. J'avais fait un casting.
Ouais, t'étais vachement
investie. J'étais investie. Et du coup, mon père a dit bah, non, c'est une perte de temps, Niette, c'est mort, elle fera pas ça, elle deviendra infirmière. Alors que je peux même pas voir une aiguille, je peux même pas voir du sang en fait, sans m'évanouir. Du coup, mon père, il en démordait pas. Et moi, je voulais partir de mon petit village pour rejoindre Paris pour devenir comédienne. Voilà. Et mon père, non, c'était pas du tout ça. Les projets n'étaient pas. Enfin, il voyait pas les choses de cette façon. Du coup, j'ai dû abandonner mon rêve et j'ai un peu erré, on va dire, au niveau scolaire. J'étais plus motivée. J'ai fait un BEP mode. J'ai fait ça parce que bon, voilà. Mais c'était pas du tout ce qui m'attirait le plus, même si j'adore la mode. Hein. C'est pas vraiment ce qui m'attirait le plus. Je l'ai quand même eu, malgré toute ma mauvaise volonté. Je l'ai quand même décroché, ce diplôme. Et puis après, je suis partie à Paris pour faire un bac pro commerce que je n'ai jamais eu. Mais c'est vrai que ça se passait assez mal à la maison.
C'est-à-dire
ça se passait assez mal parce que mon père était quelqu'un de très sévère à l'époque, fallait pas bouger quoi, tu vois, on n'avait pas le droit de sortir, voilà, moi j'avais pas d'activité, rien, c'était on reste à la maison et puis c'est tout quoi, tu vois, je voyais les enfants jouer dehors, je regardais par la fenêtre, je les voyais jouer dehors, j'étais hyper triste. Et c'est vrai, c'est des choses qui marquent, en fait. Je trouve pas que j'ai eu une enfance heureuse. Ouais, vraiment. Si c'était à revivre, c'est pas l'enfance que je choisirais. Mmh. Vraiment. Et en plus de ça, mon père, tu sais, il avait la main un peu facile. Ça partait pour un oui, pour un non. Donc, il tapait quand même assez facilement. Moi, étant la plus grande, je crois que je suis celle qui s'est mangée le plus de coups. Je sais pas si mes frères diront la même chose que moi, mais moi, j'estime que je suis celle qui s'est mangée le plus de coups par mon père. Alors, autant ma mère m'a jamais tapé, ou peut-être une fois m'a lancé une chaussure, mais c'est tout. Mais mon père, ouais, vraiment, c'était d'une violence. Je tombais dans les pommes, je saignais.
Mais c'était vraiment.
Ouais, c'était une vraie violence, quoi. Et
à ce moment-là, il n'y a pas d'autre alternative que de subir.
Il n'y a pas d'autre alternative pour moi que de subir. Et je subissais. Et je me souviens qu'à l'école, il y avait une maîtresse qui m'avait dit. Je sens que tu es triste, tu vas pas bien, j'ai l'impression. Enfin, elle sentait le truc, quoi. Et moi, je lui dis non, tout va bien, puisque je voulais pas de problème avec mon papa. Et c'est pas parce que mon papa me tapait que je ne l'aimais pas, en fait. Et moi, en tant que petite fille, je me disais, si je balance mon papa, c'est comme si il allait m'en vouloir à vie et qu'après, il va croire que je l'aime plus. Enfin, tu sais, dans l'esprit de la petite fille que j'étais.
De toute façon, dans l'esprit des enfants, c'est souvent ça. Hein. Il y a ce conflit de loyauté, la peur du désamour, la peur d'être la source de conflits. Il y a tellement de choses qui font que l'enfant ne parle pas. C'est pour ça que c'est à l'adulte de parler.
Exactement. Et du coup, je n'ai jamais parlé. Mais par contre, un jour, mon père, à l'âge de 13 ans, m'annonce « Oui, j'ai pris ton billet, tu vas partir au bled, tu vas te marier avec ton cousin que je ne connais pas.
» Là, si, t'as même quoi, 13 ans
si... Ouais, j'ai 13 ans à peu près. Même si le cousin en question, je l'ai connu quand j'étais petite, avant de partir, j'ai aucun souvenir de lui en fait, voilà. Et moi je lui dis non papa, je veux continuer mes études. Puis le cousin en question, je ne l'aime pas, je suis pas amoureuse de lui, mais mon père, bon, lui c'était pas son problème en fait. Il avait promis ma main à ce fameux cousin et du coup, fallait que je parte. Alors quelques années s'écoulent, 13, 14, 15. Je crois que, ouais, 15 ans. 15 ans, ouais. 15 ans, mon père, il réitère. Il me dit, ça y est, j'ai pris ton billet. Regarde, je t'ai acheté du dentifrice pour la barre. Regarde la brosse à dents, comme si c'était genre ce truc, tu vois. Et moi, je le regarde, je suis dépitée parce que je me dis, mais je partirai pas, en fait, tu vois. Et là, la petite fille sage, qui était assez docile, qui bougeait pas trop, qui la ramenait pas trop, etc. je sais pas, j'ai eu une rage en moi et je me disais, mais je vais pas finir là-bas, quoi. C'est mort, je vais pas finir avec un inconnu avec qui je vais devoir coucher tous les soirs. Et puis, je sais pas c'est quoi les conditions là-bas. Enfin, je voyais pas du tout ma vie là-bas. Moi, je voulais rester en France, continuer mes études. Et mon père ne m'écoutait pas. Mais vraiment, il ne m'entendait pas, il ne m'écoutait pas. Ma mère, en soum-soum, elle m'encourageait, elle me disait faut que tu partes. Faut que tu partes. Si tu pars pas, tu vas finir dans cette famille. En plus, cette famille qui ne nous aime pas. Moi, déjà, ils ne m'aiment pas. Enfin, voilà. Ma mère, c'est un peu ce qu'elle me disait en soum-soum. Et moi, j'étais là.
Tiraillée, du coup.
Moi, j'étais pas tiraillée parce que dans ma tête, c'était clair que je n'allais pas rester sans rien faire, en fait. Que ma mère soit avec moi ou qu'elle soit contre moi, moi, c'était pas la question. Et à ce moment-là, j'ai eu une force de caractère. Et je pensais aussi à mes petites sœurs. Je pensais à mes petites sœurs parce que j'ai deux petites sœurs. Et je me disais, mais si j'accepte, elles vont suivre, en fait.
Bah ouais.
Tu vois, dans quelques années, c'est elles qui vont se retrouver au bled avec un homme qu'elles n'aiment pas à subir. Donc moi, je pensais à moi, mais je pensais aussi à elles. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fugué à 15 ans. J'ai fugué. J'ai couru, mais j'ai couru avec un point de côté. J'ai couru le plus loin possible de cette maison et de mon père. Et j'avais une copine qui était accueillie dans une famille d'accueil. Et du coup, je suis partie la voir et je suis partie dans cette famille d'accueil. Je leur ai dit les choses, je leur ai tout expliqué. Et là, ils m'ont dit, faut qu'on aille voir la police parce qu'on ne peut pas te garder parce que tu es mineure. Donc, les choses commençaient à me dépasser à ce moment-là parce que moi, je me disais, mais attends, non, pas la police. En fait, moi, en tant que petite fille, je voulais juste pas me marier et rester en France et suivre mes études. Mais... sans penser à toutes les conséquences derrière, en fait. Et puis, j'avais pas le choix. On est parti voir la police et mon père s'est fait convoquer. Et là, je me souviens je sais plus, le policier ou le gendarme, je sais plus, qui lui dit « Ici, on est en France, on n'est pas en Afrique, on tape pas les enfants et on les marie pas s'ils le veulent pas, quoi. » Et c'est la première fois que je voyais... quelqu'un avoir de l'autorité sur mon père, en fait, tu vois. Et là, j'avais plein d'émotions qui se mélangeaient en moi. En même temps, je me disais, je vais me faire tuer, je suis morte, ça y est, tu vois. Et en même temps, je me disais, bah ouais,
on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit. Donc, j'étais un peu mélangée dans tout ça. Et malgré ma peur, je suis passée devant le juge des enfants parce qu'ils ne m'ont pas rendue comme ça à mes parents. Je suis passée devant le juge des enfants et ma mère, je me rappelle, comédienne qu'elle est, elle m'engueulait devant mon père. « Ouais, t'es partie, blablabla, blablabla. Bla, » bla. Mais alors qu'au fond, c'est elle qui m'avait dit « Ouais, il faut que tu partes. »
Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand t'assistes à la scène en te disant, mais comme tu le dis, belle comédienne, mais en même temps, elle te permet une porte de sortie. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu te dis, mais elle soutient devant son mari, donc elle soutient, elle tient tête, mais derrière, elle me dit de partir. Tu le vois tout de suite comme elle aussi, elle a peur de lui, ou est-ce que tu te dis, c'est quoi ce bordel? Enfin, est-ce que du coup...
au départ, je me disais, c'est quoi ce bordel? Elle me soutient, mais pas ouvertement. Je comprends pas. Mais après, par la suite, j'ai compris que ma mère, c'était une femme soumise, en fait. Elle débarquait en France. Elle était pas encore assez...
Ancrée,
confirmée, que ce soit dans le caractère. Elle avait encore peur. C'était une femme qui avait peur, je pense. Parce qu'aujourd'hui, ma mère, c'est plus du tout cette femme. Aujourd'hui, elle a divorcé de mon père déjà. Elle a tenté de refaire sa vie, mais pour l'instant, elle n'y est pas parvenue vraiment. Et puis, aujourd'hui, elle travaille. Elle fait sa vie, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'un homme ne lui marcherait pas sur les pieds.
On pourrait dire qu'elle s'est émancipée.
Elle s'est émancipée. Voilà. Elle s'est vraiment émancipée pour le coup. Ouais.
Toi, ça y est, tu es une jeune adulte quasiment. Tu te projettes dans une éventuelle parentalité? Est-ce que tu te dis, ouais, moi, un jour, quand j'aurai mes enfants, ou est-ce que du coup, c'est une question que tu ne te poses même pas?
Bah moi, j'ai déjà des enfants.
Mais à 15 ans, 15 ans,
Ah, à 15 ans.
15-16 ans, là, quand tu décides de partir, quand il y a le jugement, est-ce que, comme beaucoup de filles, tu es en train de te dire, ouais, moi, plus tard, quand je serai chez moi avec mes enfants, je serai pas comme ça, ou est-ce que du tout, ou est-ce que tu vis sans du tout te poser la moindre question sur une éventuelle parentalité.
Moi, à cette époque-là, j'en étais pas encore là. Je ne me posais pas de questions vraiment. Moi, ma seule priorité à cette époque-là, c'était de m'en sortir, de ne pas me marier, de faire mes études, d'avoir un bon job, voilà, de tomber amoureuse de quelqu'un. Voilà, c'était surtout ça. Je me posais pas plus de questions que ça. Alors après, tomber amoureuse de quelqu'un, là aussi, c'était limité. C'était limité dans le sens où, tu sais, mon père, déjà, il établissait plein de critères. Hein. Fallait qu'il soit peul, fallait que ce soit quelqu'un de notre caste. Encore ces histoires de caste. Voilà, fallait qu'il ait un emploi, etc. Et j'ai trouvé effectivement un peul que mon père a refusé finalement.
Donc
Voilà.
tu t'es quand même dit, bon, ok, l'amour, bon, le tableau se... Enfin, en tout cas, le champ des possibles se rétrécit, mais je vais quand même chercher à, dans les critères de papa.
Oui. Parce que je crois que quelque part, parce que mon père m'a rejetée en fait. Il m'a rejetée parce que je voulais pas me marier avec mon cousin et que j'ai fugué pour sauver mon avenir. Et à ce moment-là, pour lui, c'était surtout que pour lui, il se disait, je l'ai emmené à la police. C'est surtout ça,
Ah bah
c'est un
oui.
déshonneur pour lui. Donc lui, je pense qu'il se disait, c'est plus ma fille. C'est plus ma fille, j'en veux plus. Enfin voilà, pour lui, je l'ai déshonoré et c'est tout. Alors que moi,
Donc.
c'était un cri d'appel à l'aide, en fait. Écoutez-moi, je veux pas de la vie que vous me proposez. On fait pas des enfants pour choisir pour eux, en fait. À un moment donné, les enfants ont droit de choisir pour eux-mêmes. Et c'est vrai que j'étais mineure, mais le choix de mon mari m'appartient.
C'est ton corps.
M'appartient parce que mon mari va toucher mon corps. Ma vie va se lier à la sienne. Donc, je vois pas pourquoi c'est papa qui choisirait, c'est maman ou c'est
Pierre-Paul
quelqu'un
Jacques.
d'autre, ouais, Pierre-Paul Jacques, non. Donc, moi, ça, à 15 ans, c'était très clair dans ma tête, en fait.
À quel moment tu rencontres la personne avec qui tu vas envisager de fonder une famille
C'est au moment où. Bon, alors, dans l'histoire, je suis partie voir la police, etc. Je suis passée devant le juge des enfants et je suis rentrée chez mes parents. Ils m'ont rendue à mes parents parce que j'étais mineure et puis bon, voilà. Et ça se passait pas bien avec mon père, en fait. Justement, il continuait à. Alors, il me tapait plus, mais par contre, il y avait cette. Comment dire ça? Il y avait cette violence psychologique. Cette violence n'était plus physique, mais il y avait cette violence psychologique dans le sens où il m'ignorait totalement, vraiment. Alors que, bon, à 15 ans, on a besoin de son père, hein, qu'on soit un garçon ou une fille, on a besoin de ses deux parents. Et il m'ignorait totalement et il me rabaissait énormément pour tout ce que je faisais. Même quand j'ai obtenu mon BEP métier de la mode, mon père. Il m'a dit, toi, tu peux obtenir quelque chose, toi, bon à rien, etc. Vraiment, mais il me rabaissait en tout point sur tout. Et c'est comme ça que j'ai perdu énormément confiance en moi et ce qui m'a causé énormément de soucis par la suite dans le monde du travail parce que je pensais que j'étais pas capable de faire quelque chose.
Une
Voilà.
perte de confiance en
Voilà,
toi-même.
exactement. Je pensais que, voilà, comme mon père le disait, je suis bonne à rien, je ne peux rien faire. Quand on me confiait un poste. Je me disais, mais non, c'est trop de responsabilité, moi je peux pas gérer ça. Enfin, vraiment une perte de confiance en moi. Et je me souviens plus c'était quoi ta question.
Non, c'était à quel moment du coup tu rencontres la personne avec qui tu te
Oh,
projettes?
oui, et du coup, un jour, mon père, on s'est disputé, une dispute de plus. Et il m'a mis à la porte, il m'a dit, casse-toi de chez moi, voilà. Donc du coup, je suis partie de chez lui. Parce que de toute façon, c'était un enfer chez lui. Donc, j'ai envie de dire, il m'a libérée. Je préférais la rue que d'être chez lui. Alors, pour dire ça, c'est que vraiment, c'était un enfer. Et du coup, je suis partie de chez lui. Je suis partie avec juste un petit sac et sans savoir où j'allais. Et en plus, je ne travaillais pas. J'avais quoi ? J'avais 20 ans. Voilà. Et à ce moment-là, je quitte ma petite ville, là, dans l'Oise. Et j'arrive sur Paris. J'arrive
toute seule vers l'inconnu.
Vers l'inconnu. Voilà, vers l'inconnu, mais vers le début de ma liberté. C'est ce qui m'importait. Et du coup, j'arrive, j'appelle une copine à moi qui me dit « Ouais, viens dormir à la maison et tout, pour ce soir, on verra demain, on discutera et tout. » J'arrive, la copine en question, elle n'avait pas ouvert la porte, quoi. Donc du coup, je me retrouve dehors, à errer en pleine rue. Voilà, en fait, j'étais officiellement SDF. Ouais. Officiellement. Et pendant quelques mois, j'ai été SDF. Ouais.
Donc, tu as dormi à la rue
Dormi à la rue, ouais. J'ai dormi à la rue, ouais. Et à ce moment-là, il y avait une rage en moi, Minata, mais énorme, dans le sens où je me disais, mais je me sens rejetée, je me sens abandonnée. Et mon père ne se pose même pas la question à savoir comment vit sa fille, est-ce qu'elle dort, est-ce qu'elle mange, est-ce qu'elle ne s'est pas fait violer, est-ce qu'elle ne prend pas de la drogue, est-ce que. Plein de questions. Et puis là, il y a eu un sentiment d'abandon total qui est né, en plus de la perte de confiance. Je suis passée par toutes les blessures possibles.
Comment tu survis à la rue et comment tu en sors ?
Et justement, c'est pendant cette fameuse période où j'ai un peu erré dans la rue et tout, que je rencontre le papa de mes enfants. Qui me dit au début on était amis tout ça, je lui raconte un peu mon histoire et tout, et là il me dit écoute, mes parents ils sont pas là, ils sont au bled pendant quelques mois et tout, tu viens à la maison. Donc il m'a un petit peu hébergée pendant quelques mois, et puis une histoire est née entre nous, et puis on a voulu se marier, et là je reprends contact un peu avec ma mère, mon père. Et mon père, pour lui, c'est niette. C'est non. Je lui dis, mais papa, il est peul. Non, en fait. À ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est un musulman, c'est un peul. Enfin, c'est un peu les critères que tu m'avais donnés. Voilà. Mais en fait, je pense que... Je sais pas. Finalement, avec le recul, certes, j'ai deux enfants avec lui. Bon, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. On a divorcé depuis une dizaine d'années. Mais avec le recul, je me pose la question à savoir est-ce que j'étais vraiment amoureuse de lui ou est-ce que c'est pour plaire à mon père que j'ai choisi cet homme. Et je pense que c'était vraiment pour plaire à mon père. Et malgré tout, il n'a pas validé quand même.
Comme quoi, ils mettent des fois des critères, mais au final, c'était son choix à lui. Celui qui t'avait choisi.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est resté bloqué sur son choix. Et pour lui, c'était pas à moi de ramener quelqu'un. C'était à lui de choisir pour moi. C'était Après, c'est une histoire de culture, de tradition, tout ça. Aujourd'hui, mon père, ça a mis des années. Hein. Ça vient juste de commencer à s'apaiser entre lui et moi. Je pense qu'il a pris de l'âge et il a compris certaines choses, enfin j'espère en tout cas. Mais c'est vrai qu'on vient tout juste de renouer un contact qui est à peu près un contact de père-fille, quoi. Ouais.
Du coup, tu te retrouves... Pendant 10 ans, vous éduquiez vos deux enfants ensemble.
C'est ça.
Qui pose le cadre ? C'est toi, c'est lui ? Comment les choses se mettent en place ? Est-ce que ces grossesses sont désirées ?
Oui, les grossesses sont désirées. C'est plutôt moi qui pose le cadre, parce que ça s'est fait comme ça, en fait, naturellement. Lui, il est plutôt... C'est pas quelqu'un qui s'est posé un cadre, en fait. Moi, je pose le cadre à la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, il a du mal à poser un cadre aux enfants. Hein.
D'accord.
Donc, c'était plutôt moi. C'est vrai que j'ai voulu des enfants, mais j'étais complètement dans l'inconnu. Et cet inconnu me faisait peur. Parce que j'avais vraiment peur de reproduire ce que moi, j'avais vécu. surtout par rapport aux violences, en fait. Voilà.
Aujourd'hui, comment se passe ton quotidien dans... Est-ce que tu avais une projection de l'éducation que tu allais apporter à tes enfants? Est-ce que tu avais un idéal ou est-ce que tu disais on y va à l'instant?
Bah, oui, j'avais une petite projection. L'idéal, ça aurait été qu'on éduque nos enfants déjà tous les deux, ensemble. Papa et maman ensemble, dans une même maison, voilà, amoureux et tout et tout. C'était pas le cas, puisque dès l'arrivée des enfants, comme si les enfants, leur arrivée avait foutu un peu le bazar dans notre couple.
C'est comme ça que tu l'as perçu ?
Ouais, c'est comme ça que je l'ai perçu, parce que on sait, quand j'ai eu le premier... Moi, j'ai enchaîné. J'ai eu le premier. Et quand le premier a eu 2 ans, ils ont 2 ans d'écart.
Ouais, ils ont 2 ans.
Ils ont 2 ans d'écart. Et du coup, moi, je me retrouvais beaucoup à faire les choses, à me lever la nuit, à changer les couches, à faire les biberons, enfin, tout, m'occuper de tout, de A à Z, à faire à manger, etc. Et lui, c'était vraiment le mec hyper laxiste. Voilà, il se lève, il prend sa douche, il sort
comme
dehors.
Comme si les enfants n'étaient pas là.
Voilà, il sort dehors, il fait sa vie, il rentre le soir, voilà, la bouffe est prête, la maison est propre, les enfants sont propres, tout ça. Ok, bon, ça a duré un petit moment, et puis, un jour, j'ai pété un câble, quoi.
T'es divorcée depuis une dizaine d'années, donc avant les 3 ans de ton grand.
Ouais, non, le grand, je crois qu'il avait 3 ans, et puis le deuxième, il devait avoir, je sais pas, un peu moins d'un an. Il avait un peu moins d'un an, il n'avait pas encore eu ses 1 an. Et vraiment, j'étais arrivée à bout parce que j'étais très très fatiguée. J'étais très fatiguée, j'avais pas de soutien. Ni par rapport aux enfants, ni par rapport à la maison, ni par rapport à l'administratif. C'est moi qui faisais tout, vraiment tout de A à Z. J'avais pas de soutien. Même dans la nuit, quand je le réveillais, vas-y, lève-toi, donne le biberon. Non, il se levait pas. Voilà, moi, instinct de maman, instinct maternel, je me lève. Mais ouais, je me suis sentie pas soutenue du tout. Du tout, du tout.
Du coup, tu prends la décision, c'est toi qui prends la décision.
C'est moi qui prends la décision de le quitter. Parce que j'estime que j'étais arrivée au bout du truc, en fait. Et je me posais même la question, est-ce que je l'aime ? Voilà, est-ce que je l'ai choisi pour moi ? Est-ce que je l'ai choisi pour plaire à mes parents ? Pour que mes parents... pour donner l'exemple en tant qu'aînée déjà, à mes frères et sœurs. Et puis en plus de ça, pour plaire à mes parents qui, eux, avaient des critères. Et puis je devais absolument rentrer dans ces critères-là. Avec le recul, je pense que je n'ai pas choisi cet homme pour moi. Et je pense que toutes les décisions que j'ai prises jusqu'à arriver à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, je les ai prises pour ma famille. Voilà, quand je dis ma famille, c'est-à-dire mes parents, un peu pour mes frères et sœurs, pour rester dans le cadre familial, pour leur plaire, etc. Et aujourd'hui, je suis arrivée à une étape de ma vie où vraiment... je refuse, en fait, et j'ai envie d'être libre, parce qu'en réalité, je suis toujours en quête de cette liberté, liberté de choix, liberté de décision, parce que j'estime que j'ai pris des décisions pour plaire à ma famille. Et aujourd'hui, je veux plus faire ça.
Ouais, je
comprends. Mais ça coûte cher.
Très bien. Du coup, aujourd'hui, quand tu décides de te séparer, rapidement, quelles ont été les étapes les plus difficiles de l'après-séparation avec les enfants ?
C'est surtout de te dire « Ah merde, je suis seule maintenant !» Même si dans le couple, je me sentais seule, mais là, de le conscientiser, te dire « Là, je suis seule. Je suis malade, et je suis seule, je dois faire à manger. » Voilà, il n'y a pas de « Ouais, s'il te plaît, je suis malade, je ne me sens pas bien, va réchauffer la compote pour le petit. » Il n'y a pas.
Et vous établissez d'un commun accord la garde des enfants, est-ce que ça se fait dans de bonnes conditions ou est-ce que ça va être conflictuel ou est-ce que ça ne se fait pas du tout ? Est-ce que c'est toi qui as les enfants tout le temps ?
Pour ma part, je trouvais que déjà, c'était quelqu'un d'un peu... Alors, je lui dis tout le temps irresponsable. Donc, du coup, les enfants, c'est moi qui les avais. Voilà. J'ai pas choisi hein, de les avoir tout le temps. Hein. Moi, j'aurais aimé qu'ils les aient un peu, je les ai un peu. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est moi qui ai eu les enfants tout le temps. Et puis, lui, il venait les voir
Quand tu voulais.
quand il voulait, quand il le décidait. Il pouvait rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans voir les enfants. Et puis un jour débarquer, quoi.
Aujourd'hui, tu as des garçons,
Ouais,
tu as
j'ai des
deux
garçons.
garçons. Comment tu les sensibilises par rapport à ton parcours de vie et toutes ces violences, ce continuum de violences en fait que tu as subi, que ce soit au moment de l'excision, que ce soit la menace d'être contrainte de te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, ou les violences d'un père qui a la main facile. Puis ensuite, ce parcours où tu te retrouves à la rue aussi, qui est violent. Comment t'envisages ou comment tu sensibilises déjà tes enfants sur justement quel homme ils vont être eux, quel père ils vont devenir, est-ce que c'est des questionnements que tu as ou pas du tout?
Si, c'est des questionnements que j'ai. Alors après, peut-être pas aussi profonds pour l'instant parce qu'ils sont
Ils sont
encore
jeunes.
petits. Mais c'est vrai que moi, en termes d'éducation, j'essaye d'éduquer mes garçons à être autonomes. J'insiste sur cela à chaque fois. J'ai envie que ça devienne des hommes, bah déjà, qui respectent énormément les femmes. Et j'ai envie que ça devienne des hommes qui sont autonomes. Voilà, moi mes garçons ils font la vaisselle, ils font le ménage. Parfois on a des conversations, je discute clairement avec eux de, bah, par exemple, du consentement. Là, il n'y a pas longtemps, on en discutait. Mon grand il est au collège donc je lui dis, hein, voilà, quand tu seras grand et tout, il faut que la fille soit d'accord, etc. Bon, on en parle un petit peu.
Tu commences à introduire
Je
le
commence à
consentement.
introduire ce genre de discussion, en tout cas. Voilà, des discussions ouvertes. J'ai pas envie que mes garçons aient peur de moi comme moi, j'ai eu peur de mon père. Voilà, avec mon père, il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de. Sur rien. Il n'y avait pas de discussion. Et mes garçons, je veux pas de ça entre eux et moi. J'ai envie vraiment que mes garçons, quoi qu'ils puissent faire dans la vie, qu'ils puissent venir me voir et se confier. Et qu'ils n'aient pas peur de se confier ou de se livrer ou de me demander des conseils sur n'importe quel sujet et quoi qu'ils puissent faire en fait. Voilà, alors que moi, c'était plutôt le contraire. Hein. Je n'osais pas parler avec mon père. Hein. Voilà. Avec mon père, on n'a jamais parlé de sujets un peu. Enfin, on n'a jamais parlé de rien de toute façon. Donc voilà, c'est réglé.
Aujourd'hui, les grands-parents sont présents dans la vie de tes enfants ou pas du tout?
Alors, de mon côté, il n'y a plus de grands-parents, ils sont tous décédés. Mais par contre, du côté du papa de mes enfants, il y a la mamie qui est là. Bon, le grand-père est décédé également. Il reste que la mamie et la mamie, elle est là. Ils vont la voir, ils discutent avec elle, ils veulent aller la voir, etc. Voilà, je trouve qu'elle a une bonne relation avec les enfants.
C'est important pour toi?
C'est important. C'est très important pour moi parce que c'est la seule qui reste déjà des grands-parents. Et je veux que mes enfants connaissent cette chance d'avoir une mamie et une mamie bienveillante. Donc pour l'instant, ouais, ça va, ça se passe plutôt bien.
Si on pouvait te souhaiter quelque chose par la suite, est-ce que tu envisages peut-être des choses d'un point de vue familial, professionnel, si on pouvait te...
Alors, d'un point de vue familial, ben, si vous voulez me souhaiter quelque chose, c'est ben, d'être avec la bonne personne, en
De
fait.
rencontrer l'amour, le vrai.
Ouais. L'amour, le vrai. D'être avec la bonne personne.
Tu dis
Bon,
la bonne personne,
là,
c'est quoi la
je
bonne
suis
personne pour
avec
toi, par
quelqu'un
exemple?
déjà, mais bon, après, on verra. Ben, pour moi, la bonne personne, c'est cette personne qui va me prendre entièrement, qui va comprendre comment m'aimer. Avec tout ce que mon âme comporte comme blessure, voilà, c'est la personne qui va accepter bah, la personne que je suis et qui va trouver que mes défauts ne sont pas si inconfortables que ça, voilà, qui va accepter mes défauts.
Ok, et quel futur beau-père tu souhaites pour tes enfants, du coup?
Quelqu'un qui soit... déjà, quelqu'un qui les aime vraiment. Quelqu'un qui les aime vraiment profondément. Bon, peut-être pas autant que moi, hein, parce que bon, je suis la maman. Mais quelqu'un qui les aime vraiment, qui les respecte et qui est à l'écoute, qui les emmène là où ils veulent aller, vers une réussite. Quelqu'un qui a à cœur de les faire évoluer. Quelqu'un de vraiment bienveillant envers eux. Voilà.
C'est important parce que il y a tes enfants avec ce père qui est présent encore et même si pas autant que ce que tu aurais souhaité, et en même temps il y a cette perspective de rencontrer toi aussi l'amour avec un grand A, mais du coup cette nouvelle personne elle arrivera dans ta vie, une vie où il y a déjà deux enfants qui sont là, et c'est important d'avoir ton retour sur quel père tu souhaiterais pour eux, surtout que dans ce que tu dis et ce qu'on a pu entendre, le rapport à ton père n'a pas été évident. Et du coup, c'est ce qu'on aimerait peut-être offrir de mieux à nos enfants.
C'est
On peut dire
ça.
ça comme ça?
Oui, c'est ça. Surtout, pas quelqu'un de violent, alors que ce soit une violence physique ou verbale. Déjà, j'essaye de faire attention dans les par rapport aux hommes que je rencontre. Je reste alerte aux hommes qui peuvent être violents. Même juste dans leurs mots, en fait. Voilà, aujourd'hui, j'ai un problème avec les hommes qui rabaissent les femmes. Voilà, donc moi, si je rencontre quelqu'un qui, de par ses mots, me rabaisse et me dit « Ah, mais non, mais je rigole, t'as pas le sens de l'humour. Ouais, mais c'est pas grave, ça vient de moi, c'est pour ça, faut pas que tu le prennes mal. » Non, je suis désolée. Même si ça vient de toi, oui, mais moi je suis bienveillant. Non, là tu ne l'es pas en fait. Là, à ce moment-là, tu ne l'es pas. Si
Tu as
je te
besoin
dis
de quelqu'un qui
voilà,
l'incarne.
qui l'incarne, qui comprend mon vécu, qui comprend mes blessures, qui les accepte et qui n'est pas là pour, tu sais, pour enfoncer le couteau dans la plaie et le tourner, le retourner. Non, quelqu'un qui est là pour me faire des bisous sur mes blessures, voilà, qui m'enlace moi entièrement avec mon histoire, mon vécu, mes blessures,
Qui
voilà, mes
tu es.
traumatismes, qui je suis, voilà.
Pour conclure, si tu pouvais t'adresser aux auditeurs et notamment à des femmes qui ont pu vivre des violences comme tu as pu les vivre, ou qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Une femme qui est assise, qui écoute, raconte ta parentalité, qui tombe sur ton témoignage et qui se reconnaît dans certains de tes mots, qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'elle entende?
Si elle est en train de actuellement vivre ces horreurs-là, j'ai envie de lui dire, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu existes, tu fais partie de ce monde, tu existes, donc tu as de la valeur, il faut que tu aies de l'estime pour toi-même et que tu te respectes, tu as droit au respect. Et si tu te respectes, tu forces les autres à te respecter aussi. Donc à ce moment-là, si tu vis des horreurs, lève-toi, bats-toi, refuse, dis non, aie le courage de partir. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut avoir ce courage-là. Ne t'abandonne pas, parce que si tu t'abandonnes, c'est foutu. C'est foutu. Aujourd'hui, les gens, on va dire, c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc si toi, tu t'abandonnes... C'est foutu, il faut vraiment que tu trouves la force, la volonté, la force, le courage au plus profond de toi de refuser de vivre ça. Voilà, tu as une vie et tu dois la vivre pleinement. Et la vie, en réalité, si on la regarde du bon côté, dans le bon angle de vue, elle est belle. Elle est belle, mais il faut que tu te donnes cette chance de la vivre comme toi tu le souhaites. Et c'est pas en subissant des violences conjugales ou toute forme de violence, quoi. Que tu vas vivre ta vie de la plus belle des façons. Et puis une vie, on n'en a qu'une, on n'en a pas deux. Donc c'est maintenant que ça se joue. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas avoir peur.
Merci Fatih. dans tout ce que tu as dit. J'espère que quelqu'un entendra voilà, tes mots et se dira ah bah, je suis peut-être pas la seule, malheureusement. Comment faire en sorte d'être les dernières? Ça, c'est un long combat. Ne pas oublier aussi la nécessité d'aller chercher de l'aide. C'est pas forcément aisé de se sortir de ces situations. Des fois, on a une force pour une raison X ou Y qui nous pousse à pousser la porte et à dire stop. Et des fois, c'est pas facile. Donc, n'hésitez pas à trouver de l'aide, que ce soit dans les centres sociaux, que ce soit n'importe, à l'école. Aujourd'hui, de plus en plus d'adultes sont sensibilisés à ces questions-là. Et n'importe où vous allez, vous trouverez quelqu'un qui aura une oreille attentive. Ne pas négliger aussi la force de l'accompagnement psychologique pour aussi trouver des clés et un soutien. En tout cas, merci à toi, Fatih, pour l'authenticité de ton témoignage.
Avec plaisir.
Merci à Mon Paris FM de nous recevoir. Vous pourrez retrouver ces émissions le vendredi soir sur Mon Paris FM en direct, mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Si vous aussi, vous avez envie de participer à une émission, à témoigner, n'hésitez pas à prendre attache avec nous. Et je vous remercie encore. À très vite. Ciao.
Mon Paris FM.